Votre journal de 19h. Bonsoir Raphaël Delvolvé.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et il est 19h. Très bonne soirée, très bon dimanche soir à tous. Et l'Assemblée nationale, je vous le disais tout à l'heure, adopte définitivement le projet de loi sur le pass vaccinal. Les autres titres, Raphaël.
Se montrer dynamique et innovant, la recette avait fonctionné en 2017 et Jean-Luc Mélenchon l'applique encore pour la campagne 2022 avec un meeting d'un nouveau genre à Nantes, un meeting immersif et olfactif. Europe 1 était sur place. Des candidats qui sortent donc les grands moyens et d'autres qui ne sont toujours pas déclarés. Mais quand Emmanuel Macron va-t-il descendre dans l'arène? Ça dépend de l'évolution de l'épidémie. Les derniers bruits de couloir avec Jacques Seret. À suivre aussi le sport. Novak Djokovic a dû quitter l'Australie après 11 jours d'un invraisemblable feuilleton. Et Lyon s'impose contre 3 en Ligue 1. Marseille-Lille à suivre ce soir. Nous en parlerons tout à l'heure.
La tendance météo, Valérie Darmont.
Gris et nuageux, mais sec partout. Ce qui tranche avec le soleil qui brille sur le littoral, entre Roussillon et Alpes-Maritimes, jusque sur les reliefs de la façade est. Attention aux quelques flocons et verglas le matin sur les régions centres.
Météo complète en fin de journal.
Europe 1. Voici le résultat du scrutin. Votants 280, exprimés 273, majorité 137 pour 215 contre 58. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. La séance est levée.
Voilà, donc c'est pas les chiffres et les lettres, hein, c'est bien l'Assemblée nationale qui adopte définitivement le projet de loi sur le pass vaccinal.
Épilogue d'un processus parlementaire de 2 semaines, parfois tendu, ralenti et donc retardé. Il faut dire que ce pass vaccinal divise. Nina Droff, vous êtes dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Quelle était l'ambiance dans l'hémicycle aujourd'hui?
Mais si les réactions sont, comme vous pouvez vous en douter, très variées. Du côté de la majorité, il y a évidemment une forme de soulagement de voir enfin ce texte adopté après 2 semaines de débats très houleux. Un vote qui ne laisse pas de place au doute. 215 pour, 58 contre. Damien Abad, député Les Républicains, a notamment salué l'évolution de ce texte qui leur paraît beaucoup plus satisfaisant qu'en première lecture.
Ce qui nous convient, c'est qu'on ait un outil de gestion de la crise sanitaire et qui pousse à la vaccination. C'est important pour la protection de la santé des Français et de tout le monde. Et puis, ce qui nous satisfait, c'est la prise en compte des mineurs avec un pass sanitaire seulement. Et ça, c'était aussi un point important pour nous.
Mais à la sortie, il y a également beaucoup de colère parmi certains membres de l'opposition. Le député Nicolas Dupont-Aignan parle d'un jour triste pour la démocratie. Côté insoumis, Éric Coquerel déplore un texte inutile et liberticide.
On est en train d'empêcher des millions de nos concitoyens d'avoir un certain nombre d'activités pour rien. C'est-à-dire que ça n'empêche pas la maladie malheureusement de se propager. C'est toujours cette dérive autoritaire auquel le macronisme nous a habitués.
Le gouvernement prévoit une entrée en vigueur de ce texte le 20 janvier. Mais les choses ne vont peut-être pas en rester là car la France Insoumise a annoncé avoir déjà recueilli les 60 signatures nécessaires pour une saisine du Conseil constitutionnel sur ce texte.
Affaire à suivre donc. Merci Nina Droff en direct de l'Assemblée nationale. Voilà toujours cette ambiance un peu lourde au Palais Bourbon. À l'extérieur aussi d'ailleurs, il y avait une petite manifestation d'antipasse devant le Palais Bourbon. Elle a été évacuée. Et puis des débordements durant les manifestation d'hier à Paris, un cortège faisant des saluts nazis a été photographié. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé un signalement à la justice. Parmi les plus farouches opposants au pass vaccinal, nous l'avons entendu avec Nina Droff, il y a la France Insoumise. Leur candidat à la présidentielle n'était pas à l'Assemblée aujourd'hui. Non, Jean-Luc Mélenchon était à Nantes pour un grand meeting. 3000 personnes pour écouter le discours de leur champion, discours sur la sortie du nucléaire, sur la retraite à 60 ans ou encore le blocage des prix des produits de première nécessité. Mais la vraie nouveauté, la vraie innovation, c'était ce cadre présenté comme immersif et olfactif. Le récit de Charles Guyard sur place.
Je vous emmène à la verticale.
Le décollage a eu lieu peu après 15 heures. Dans le grand cube à l'intérieur duquel le public a pris place, soudain le noir se fait, puis les quatre murs deviennent ciel étoilé.
Et soudain, voici l'espace infini.
Nous voilà donc en orbite, avec vue imprenable sur la Terre et la Lune. Il y a aussi quelques satellites.
Là, c'est la station internationale.
Le but de ce long voyage,
c'est vu de l'espace qu'on comprend mieux tout ce qu'il y a à faire sur la Terre.
La Terre, elle est là, dans notre dos, de face ou sur un côté, selon la place à laquelle on se trouve dans la salle. Pour illustrer son programme sur la marchandisation de l'espace, Jean-Luc Mélenchon a donc pris de la hauteur avec son public avant de redescendre pour observer
la mer,
Après le cosmos, l'océan tout autour, des vagues et au final, des spectateurs impressionnés.
Ah, moi j'étais immergé, hein. On se sentait pris dans un récit et là du coup c'était bien fait.
C'était une expérience assez forte.
Je pense que de mettre les images, ça permet vraiment d'être plus dedans quoi en fait.
Et pour être totalement dedans, des parfums ont même été diffusés, sauf que...
Moi j'ai pas senti les odeurs.
J'ai pas senti beaucoup d'odeurs.
Vous avez senti quelque chose?
Non, tout le monde le dit d'ailleurs. Ouais, mais c'est peut-être avec le masque aussi. Hein.
Dommage, puisque c'était l'une des principales curiosités de ce meeting immersif, mais peu importe au fond, puisque pour tous ici, il n'y a qu'une odeur qui compte, c'est celle de l'espoir.
Vive la République !
Nantes, Charles Guyer, Europe 1.
Voilà, et Jean-Luc Mélenchon ressortira l'hologramme pendant la campagne, ce sera en avril. Un meeting diffusé dans 6 villes différentes. À gauche, vous le savez, une nouvelle candidature depuis hier, celle de Christiane Taubira. C'est une mauvaise nouvelle pour la socialiste Anne Hidalgo. Elle y voit ce dimanche une source de confusion. Une question que beaucoup se posent maintenant. Quand Emmanuel Macron va-t-il se déclarer candidat? Eh bien, c'est directement lié à l'évolution de la situation sanitaire. Jacques Serret, le président, attendrait une amélioration dans les hôpitaux notamment.
Oui, clairement, c'est Omicron qui fixe le calendrier d'Emmanuel Macron. Mais en coulisses, on s'affaire déjà, car selon nos informations, le gouvernement espère une sortie de crise d'ici 15 jours à 3 semaines. C'est pourquoi plusieurs proches du chef de l'État nous ont confié que consigne leur a été donnée de se tenir prêt. Prêt pour se lancer dans la bataille de 2022 à tout moment, dès qu'Emmanuel Macron jugera le moment opportun. Et d'après nos confrères du Journal du Dimanche, deux options sont sur la table des stratèges de la Macronie pour la mise en orbite du candidat Macron. La première, une déclaration de candidature à la fin du mois de janvier, dès l'apparition d'une décrue des entrées à l'hôpital. La seconde option, une déclaration un peu plus tard, vers la mi-février, pour une campagne encore plus express. Fin janvier ou mi-février, voilà donc à ce stade la fenêtre de tir du locataire de l'Élysée.
Jacques Serret, voilà, bien choisir sa date. En revanche, il y a quelque chose qui cause moins de soucis à Emmanuel Macron pour entrer en campagne, c'est la fameuse chasse aux 500 parrainages d'élus. Elle est beaucoup plus difficile pour d'autres candidats, souvent issus des extrêmes. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen s'en plaignent. Nous en avons parlé dans le grand rendez-vous sur Europe 1. Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, expliquait pourquoi il trouvait cette règle obsolète de nos jours.
Je pense que cette règle n'est plus adaptée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai proposé plusieurs solutions. Je souhaite ardemment qu'ils trouvent tous leur parrainage. Mais objectivement, ce serait malhonnête que de dire que l'Association des maires de France va trouver des parrains. Elle n'est pas là pour servir les intérêts de tel ou tel. Beaucoup de maires nous disent « si j'apporte un parrainage, je suis marqué à vie pour un candidat alors que je suis apolitique ». Donc maintenant, si vraiment il y a crise, les représentants du Parlement changent les règles et l'AMF s'adaptera et les maires feront ce qu'ils ont toujours fait, leur devoir. Mais en l'occurrence, c'est faire peser une responsabilité de choix qui n'est pas celle de l'AMF.
Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, au micro de Sonia Mabrouk. Ils avaient un message à faire passer aux candidats. Plusieurs milliers de personnes rassemblées à Paris contre l'avortement aujourd'hui. Cette marche pour la vie voulait faire entendre 10 propositions, comme un délai de réflexion de 3 jours minimum avant une IVG ou encore le rejet de l'euthanasie. C'est à retenir en plus bref, acte de terrorisme. Voilà comment le président américain Joe Biden qualifie la prise d'otage d'hier dans une synagogue du Texas. Les autorités américaines annoncent une enquête de portée internationale sur le preneur d'otages mort après plus de 10 heures de négociations. Selon le FBI, c'est un Britannique, Malik Faisal Akram. Pendant la prise d'otage, il demandait la libération d'une Pakistanaise surnommée Lady Al-Qaïda. Et puis une disparition au Mali, celle de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé ce matin à 76 ans à Bamako. Ibeka, comme on le surnomme au Mali, avait dirigé le pays de 2013 à août 2020. Il avait à l'époque été renversé par un coup d'État militaire.
19h08, Novak Djokovic a donc dû quitter l'Australie aujourd'hui.
Le numéro 1 mondial de tennis a décollé de Melbourne à la mi-journée après l'échec de son recours en justice. Il ne pouvait pas rester faute de visa. Axel May, le Serbe, va faire escale à Dubaï dans un premier temps.
Oui, les images de Novak Djokovic arrivant à l'aéroport de Melbourne, le regard qui semble perdu derrière son masque, ont fait le tour du monde. Des policiers l'encadrent, son entraîneur est à ses côtés. Le numéro 1 mondial embarque alors à la mi-journée dans un avion direction Dubaï. Lui qui espérait conquérir un historique 21e titre du Grand Chelem sous le soleil de Melbourne est expulsé parce qu'il n'est pas vacciné et que sa dérogation n'a pas été jugé valable. Cédric Pioline est le consultant tennis d'Europe 1.
Le regard que je porte sur toute cette histoire à faire, c'est complètement irréel ce qui s'est passé. C'est un mélange de beaucoup de choses qui dépassent largement le monde du tennis. Probablement qu'il a été un petit peu surconfiant sur son statut et qu'il a négligé beaucoup de points. Il y a eu quelque chose d'irrationnel qui s'est mis dedans et qui a amené à cette situation ubuesque.
Je suis extrêmement déçu, a réagi Novak Djokovic dans un communiqué. Sa destination finale n'est pas connue, mais il semblerait qu'après avoir fait escale à Dubaï, il se rende non pas à Monaco, son lieu de résidence, mais qu'il aille rejoindre sa famille à Belgrade. Quant à l'Open d'Australie, il commencera cette nuit sans le triple tenant du titre.
Axel May et le comité olympique serbe jugent l'expulsion de Novak Djokovic scandaleuse et injuste. Réaction une nouvelle fois encore du président serbe également, Aleksandar Vučić, estimait plus tôt dans la journée que l'Australie, je cite, s'était humiliée elle-même dans cette histoire. On parle foot maintenant, avec la 21e journée de Ligue 1, le championnat de France. Lyon s'impose à 3, victoire d'un petit but. Damien Ardoy, vous avez suivi le match au Stade de l'Aube.
C'est terminé au Stade de l'Aube sur la victoire de l'Olympique lyonnais. 1-0, une victoire logique sur un pénalty que les Troyens ont longtemps contesté. Un pénalty transformé par Dembélé à la demi-heure de jeu. Jamais les Troyens n'ont été en mesure d'inquiéter. Franchement, les Rodaniens, ce sont bien les Lyonnais qui se sont montrés les plus menaçants tout au long de la partie. Le changement d'entraîneur côté Troyen avec l'arrivée de Bruno Irles n'a pas porté ses fruits. Troyes reste aux portes des places relégables. En revanche, ça va un peu mieux pour Lyon qui remonte provisoirement à la 10e place de Ligue 1. Lyon qui s'impose donc ici à 3, 1-0.
Merci Damien Ardoy. Les autres résultats, victoire de Metz à Reims 1-0. Strasbourg l'emporte 3-1 sur Montpellier. 0-0 entre Lorient et Angers. Large victoire monégasque 4-0 sur Clermont. En début d'après-midi, Rennes a étrié Bordeaux 6-0. Un match à jouer ce soir, Marseille affronte Lille à 20h45. Jean-François Pérez, vous allez suivre le match. L'OM ne l'aborde d'ailleurs pas dans les meilleures conditions.
Oui, en effet, il y a d'abord cette décision de la FIFA hier qui a assombri potentiellement l'avenir du club suite à un conflit entre l'OM et Watford autour du transfert du milieu de terrain Pape Gueye en 2020. Bien, l'instance a décidé non seulement de suspendre le joueur pour 4 mois, mais aussi d'interdire l'OM de recrutement pendant un an. Un an, c'est très long évidemment, alors le club va faire appel, un appel qui sera sans doute suspensif, n'empêche cet héritage empoisonné de l'ancienne direction du club pourrait lui causer un tort considérable. Entre-temps, et sans polémique possible puisque le joueur était libre, l'OM a officialisé l'arrivée du Congolais Cédric Bakambu, un attaquant expérimenté, mais le contrat de l'ancien Sochalien n'a pas encore été enregistré, pas homologué, il ne sera donc pas sur la pelouse ce soir, pas de premier rendez-vous donc avec les supporters. Vous me direz, il aurait été tronqué ce rendez-vous puisque seuls 5000 spectateurs, jauge sanitaire oblige, seront admis ce soir au stade Vélodrome dans la fraîcheur d'une magnifique fin de journée d'hiver.
Merci Jean-François Pérez, on vous retrouve donc tout à l'heure pour ce Marseille-Lille, ce sera à suivre dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Raphaël, absolument, dans cette belle soirée d'hiver, le match en intégralité, le coup d'envoi à 20h45 le dimanche, bien sûr, avec Jean-François Pérez notamment au stade Vélodrome. Et notre invité pour commencer cette émission à partir de 20h, ce sera une légende, une grande vedette, la première grande star du Paris Saint-Germain, Mustapha Daleb. Les plus anciens s'en souviennent, les plus jeunes un peu moins, mais allez voir sur YouTube, c'était un joueur extraordinaire. Il fait encore partie des 6 meilleurs buteurs de cette équipe du Paris Saint-Germain, du club du Paris Saint-Germain, alors qu'il n'était pas attaquant, il était milieu de terrain. International algérien, Fennec du siècle, c'est une grande star, c'est un peu le Platini algérien. Il est très rare dans les médias et ce soir, il sera avec nous. Il va donner son sentiment sur Mbappé, sur Messi, mais également sur la Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie, tenante du titre, joue ce soir à partir de 20h.
Merci Lionel Rousseau, c'est à ne pas manquer et c'est à partir de 20h sur Europe 1.
Merci Raphaël Delvolvé. Valérie Darmon, la météo avec un temps gris quasi partout demain, mais ensoleillé dans le sud-est.
Effectivement, les grisailles et bancs de brouillard sont toujours fréquents sur le pays, givrant par endroits et avec toujours quelques flocons qui peuvent tomber en début de matinée sur les régions du nord-est, c'est-à-dire entre Ardennes et Alsace. En journée, le temps reste gris et maussade, un peu moins le long des côtes de la Manche où quelques éclaircies parviennent à percer. Près du golfe du Lion, Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 70 km/h en rafale, dégageant votre ciel. Il parvient à s'imposer sur les Alpes et les Pyrénées. Les gelées restent fréquentes avec moins 4 à 0 degrés dans le sud-ouest et en Auvergne, ainsi que sur la façade est, moins 1 à 3 sur le nord-ouest, les températures qui sont positives près des côtes, les maximales comprises entre 3 et 6 degrés dans l'est, 6 à 11 ailleurs, jusqu'à 16 près de la Méditerranée.
Merci Valérie Darmon.